Jack London, La foi des hommes. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons jouer ça au dé. À votre idée, alors, moi, ça me va, répondit l'homme à qui cette proposition venait d'être adressée. Puis, se tournant vers l'Indien Inuit, tout tanné, tout ravagé, et qui raccommodait des raquettes de neige dans un coin de la cabane, il interpella d'une voix joyeuse et rude tout à la fois. Et là, toi, Bill Bedame, sauve-toi jusqu'à la cahute d'Odaison comme un brave garçon, et demande-lui de nous prêter ses dés et son cornet. Perds pas de temps. Cette soudaine requête, tombée comme une bombe au milieu de graves discussions relatives au salaire des hommes travaillant sur place, ainsi que sur la question des bois et des provisions, surprit quelque peu le placide Bill Bedame. Il était encore de bon matin, d'autre part, et Bill Bedame, pourtant accoutumé depuis 4 hivers aux étranges façons des gens qui avaient petit à petit envahi ce territoire vierge, n'avait jamais vu de white men du calibre de Perfield et de Churchiston jouer au dé avant la fin de la journée. Mais sa face resta impassible comme celle de tout un bon Indien du Yukon. Il enfla ses mitaines et sortit dans le grand froid. Bien que le réveil matin marquât 9 heures, il faisait encore nuit noire dehors. La cabane de tronc de sapin était éclairée de 2 chandelles enfoncées dans des goulots de bouteilles à whisky et posées au milieu d'une petite table aux planches dressées à l'arrache. Quelques assiettes de fer-blanc, grâce des reliefs du breakfast, entouraient les rudimentaires candélabres habillés d'innombrables stalactites de suif. La petite chambre, qui composait toute l'habitation, servait d'être aussi mal tenue que la table. À son bout, contre la muraille, aux interstices bouchés de glaise et de mousse, 2 couchettes de toile, l'une au-dessus de l'autre, supportaient tout un désordre de couvertures et de fourrures, attestant du hâtif lever des hôtes. Lawrence Penfield et Corry Hutchinson étaient 2 milliardaires du Klondike de 1898, bien que n'en ayant pas le moins du monde l'apparence. Vous eussiez tout aussi bien pris pour les bûcherons de Montana ou les ouvriers du Railroad Union Pacific. Cependant, par le jour blafard qui commençait à poindre, dans le creux d'une étroite vallée, à leurs pieds, et sur la surface même d'un ruisseau gelé à bloc, on pouvait compter beaucoup de trous noirs surmontés de treuils. 40 hommes travaillaient dans le fond de ces puits et remontaient à chaque minute le gravier payant et les pépites d'or à pleines seaux. On payait ces ouvriers $15 par jour, en leur assurant abri et nourriture. Des milliers et des milliers de dollars d'or pur étaient ainsi grattés et égratignés, des parois glacées, et tout cela appartenait à Penfield et à Hutchinson, roi du Bonanza. Penfield, silencieux depuis un instant, emplit soudain l'une sur l'autre les assiettes sales qui rendirent un son ferrailleux. Puis il se mit à battre avec ses poings maigres sur le bois de la table une sorte de tattoo africain à temps pressé, tout en regardant fixement devant lui. Hutchinson, de son côté, moucha l'une des chandelles du pouce et de l'index, sans trop savoir ce qu'il faisait. « By Jove, je voudrais bien nous puissions nous en aller toutes les deux, s'exclama-t-il tout à coup. Et Penfield lui posa sur lui un regard sévère. « Oh, si votre sacrée obstination ne venait pas toujours à se mettre en travers des choses, dit-il, il y a longtemps que ce maigre détail serait réglé. Tout ce que vous avez à faire, entendez-vous, c'est d'atteler les chiens et me flanquer votre camp. C'est à vous que cela revient de droit. Je survivrai bien la mine tout seul. Et l'année prochaine, ce sera mon tour d'aller un peu voir le monde civilisé. Mais pourquoi donc partirais-je, moi ? Répliqua Hutchinson. Personne ne m'attend. Pardon, vos parents ? Dit brusquement Penfield. Et comme vous, alors ? Avec cette différence, je n'ai pas de fiancé, cher Lawrence. Penfield leva les épaules. En tout cas, elle peut attendre, dit-il. Mais pauvre chose, elle attend de 2 ans, pas moins. Bon, une autre année ne vieillira pas au point de la rendre méconnaissable. Mais 3 ans, cela fera 3 ans. Réfléchis-y, mon vieux. 3 ans dans ce coin de terre, dans ce damné coin de tristesse, de privation, de misère sans nom. Hutchinson, se disant, leva un bras en l'air et articula une sorte de grognement qui fit sourire Penfield malgré lui. Corey Hutchinson était de quelques années plus jeune que son partenaire. Il avait tout au plus 26 ans. Son visage, au trait régulier, énergique, reflétait une véritable ardeur de vivre. On sentait que cela avait dû lui être très dur de se faire à la farouche et monotone existence des chercheurs d'or de l'Arctique. Penfield, sans doute, devait avoir plus de force d'armes. Il prit une voix menue et railleuse pour exaspérer encore la véhémence du Chinson. Mon cher, j'ai rêvé l'autre nuit que j'étais à San Francisco, chez England. L'orchestre jouait une valse langoureuse. On entendait le choc cristallin des verres aux pieds. Et la salle où je me trouvais était pleine de rires, de belles toilettes, de belles épaules. J'étais en frac et je commandais au maître d'hôtel, obséquieusement penché vers moi. Devinez un peu quel menu. Des œufs, monsieur. Des œufs frits à la poêle, des œufs brouillés, des œufs aux polish d'asperges, des œufs de toutes les matières. Et je les engloutissais au fur et à mesure de leur apparition. Tonnerre ! S'écria Hutchinson. Mais vous n'avez donc pas le bon sens d'ordonner avec cela un énorme steak bien à point, avec 2 ou 3 sortes de salades, et des oignons verts, et des radis, et des peaux noires dans lesquelles les dents s'enfoncent avec un petit crissement. Oh, si, 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 vous pensez bien que j'avais commandé tout cela, mais je ne suis réveillé qu'avant qu'on les apporte, répliqua Penfield. Et sur ces mots, il décrocha un vieux banjo qui pendait près du poêle, sous 2 carabines, et se mit à empincer les cordes avec beaucoup de minutie. « Oh, je vous en prie, supplia Hutchinson, ne jouez pas cette balade, vous me rendriez fou !» Penfield jeta le banjo sur l'un des lits et chantonna à mi-voix, les yeux clos. « Entends mon murmure luxurieux, je suis ce vers quoi le faible sans l'avouer aspire, je suis le souvenir, je suis le tourment, je suis la ville, je suis tout ce qui ment le soir dans les ténèbres, dans les lumières, fleurs, habits noirs, diamants, sourires d'amour. » À suivre. Hutchinson avait attiré un tabouret et s'était affalé sur la table, la figure cachée dans l'angle de son coude. lui sembla qu'on grattait à la porte. Il releva la tête. Un grand nuage blanc de froid entrait du dehors. Dans cette vapeur glacée apparut Bill Bedham, qui posa près de lui 5 dés et un crasseux étui de cuir en disant « beaucoup froid, alors le sol parle-moi, il y a comme gelé hier soir. » « Vous entendez cela, vieux fellow ?» s'écria Penfield en tapant sur l'épaule de son compagnon. « Allons-y donc, celui qui gagne prend le sentier pour le pays de Dieu dès demain matin. » Le Yukon est pris. On peut voyager en traîneau, hurla, jusqu'à Skagway. On ne manquera pas de trouver un des confortables steamers de la Pacific Coast Company. Il introduisit les dés dans le cornet et le secoua. D'abord, qu'est-ce que nous faisons? Poker d'as pur et simple? Oui, poker d'as pur et simple. Approuva Hutchinson. Tirons. Penfield lança un dé à la main et amena 7. Le même essai par Hutchinson donna une dame. À vous, Connery, dit Penfield. Cependant qu'il bourrait sa pipe avec de grosses lamelles de tabac en plaques coupées au canif. Les dés roulèrent sur la table rugueuse. « Oh, une paire au roi, un valet, un 7 !» annonça Hutchinson. « Lawrence, on vous ferait sortir beaucoup mieux que ça, j'en suis sûr. » Ayant joueur rompu à ce jeu d'un élégant mouvement du poignet, Perdfield était un 10 et 4 rois. « La première manche à vous, partner, et l'honneur de continuer. » Un grand silence se fit. Sur un signe de Perdfield, l'Indien lui présenta une courte tige de fer dont l'extrémité avait rougi dans le poil, et on entendit 2 ou 3 puissants « smack, smack » le grésillement du tabac, puis Lawrence rendit précautionneusement le tisonnier au vieil inutile « nuit ». De son même geste de tout à l'heure, il lança les dés. La main donna 4-8 as. « Très beau !» murmura Connery en rassemblant le jeu. Il secoua longuement l'étui dans tous les sens, la plume de main bouchant l'orifice. « Allez donc !» dit Perdfield, impatienté. Le joueur versa lentement le contenu du cornet. « 5 as !» annonça-t-il calmement. « À moi la seconde. Égalité. La belle maintenant. » Corey Chinson exhala un soupir et sema les dés d'un seul coup. Il y avait 3 rois et 1 as, mais cet as se tenait en équilibre sur un angle retenu dans une anfractuosité de table. « Ah, cassé !» s'écrièrent-ils, bressant sans barre refaire. Le joueur, cette fois, prit son temps, remua doucement les clubs cubes d'ivoire à 7 ou 8 reprises et les laissa tomber dans un espace restreint. « Oh là !» s'exclama Perfield. « Diable, 5 rois ! Quelle extraordinaire veine ! Mais c'est vous qui parlez, old chap !» Il tendit sa main rugueuse à Hutchinson par-dessus la table. Mais l'autre lui repoussa le bras. « Oh, pas du tout, je vous en prie, jouez à votre tour. Vous pouvez amener encore mieux ou faire didite avec moi, allons !» Et d'un mouvement nerveux, Perdfield envoya tout le poker sur la table. Un dé tomba à terre. Il recommença. Ce fut un coup pitoyable. 1-9, 3-7 et 1-8. Le perdant eut aussitôt un nerveux accès de rire. Corey le regarda avec effarement. Mais ce fut court. Perdfield revint vers son ami et posa sur ses épaules deux mains brûlées par les intempéries boréales, mais de forme aristocratique. « Allons !» lui dit-il en le regardant dans les yeux. « Ne protestez pas, Corey. Je devine tout ce que vous pensez à cette minute, que vous resterez bien à ma place et me laisseriez bien partir, hein ?»« Oui, oui, non, non, ne dites rien. Vous avez vos vieux parents à visiter à Détroit, et cela règle la question. Et de plus, vous pouvez faire pour moi exactement ce que j'aurais voulu faire moi-même si le sort m'avait désigné. » Dans le regard des deux hommes, un éclair s'échangea. Hutchinson souriait. « Exactement, dit Penfield, c'est cela. Vous la ramènerez avec vous, sans autre cérémonie. Et nous nous marierons à Dawson, voilà tout. C'est évidemment moins sélect que San Francisco, mais... » Un instant, interrompit Corey Hutchinson. Non, je n'y avais pas songé. Sera-t-il très convenable que je l'amène comme cela dans ce camp? Nous ne sommes pas frères et sœurs, je ne l'ai jamais vu. Et de voyager ensemble, naturellement, je suis un homme d'honneur. Ensuite, j'ose le croire, votre meilleur ami, mais enfin, oh, les gens sont si stupides. Ici, Penfield prononça un terrible juron, signifiant, au moins, qu'il avait autant souci de l'opinion des gens que de ce qui se passait chez le diable. « C'est fort joli, Lawrence, et tous mes compliments. Et si vous voulez être un peu plus civil et me faire la faveur de me laisser parler en paix un moment, vous apprendriez que la chose la plus plausible, en même temps que la plus loyale que je puisse faire en une telle occurrence, c'est vous envoyer au sud cette année. » Et l'année prochaine, est seulement à un an de distance, comme on dit. Et alors, je pourrais prendre l'essor à mon tour. Oh, mais je ne le veux pas, Corey, mon cher ami. C'est catégorique. Il est inutile que vous insistiez. Je rougirais de honte à chaque fois que je penserais à vous. Tribant comme un mercenaire, et ici, à ma place. Et soudain, il eut un petit sursaut du corps, comme un homme qui vient de frapper une lumineuse idée. Il extirpa de sa couchette, après en avoir bousculé les couvertures et les peaux de loup, un vieux bloc-notes et quelques enveloppes froissées. Puis il prit une plume et un encrier sur une étagère, et s'asseyant à la table, écrivit une dizaine de lignes rapides. « Voici qui simplifie tout, dit-il. Remettez cette lettre à son adresse. » Hutchinson prit la feuille ouverte et lut chaque mot et avec soin. « Mais comment savez-vous que son frère consentira à l'accompagner dans ce dur voyage ? » demanda-t-il. « Oh, il le fera pour moi et pour sa sœur, » affirma Penfield. Vous savez, c'est un tenderfoot, un peu nigaud et timide. Je ne l'aurais pas confié à lui seul, mais avec vous, comme chef de route, je sais que tout ira bien et fort beau style. Donc, pour commencer, vous irez la rencontrer et la préparer à ce petit événement de sa vie. Ensuite, vous partirez d'un pied leste chez votre maman, dans le Michigan. Et quand vous en reviendrez, la sainte famille sera prête à prendre le paquebot. Vous l'aimerez comme votre sœur, du premier coup. Vous verrez, je le sais. Elle charme tous ceux qui l'approchent. Ce disant, il tira sa montre, un chronomètre d'or portant ses initiales serties de pierres fines, et d'une pression du pouce ouvrit une des cuvettes. Une photographie de ton chaud en ornait le fond. Corey Hutchinson la contempla avec admiration par-dessus l'épaule de Bernfield. « Elle se nomme Mabel, » dit celui-ci d'une voix lente. « Et aussitôt que vous débarquerez à Frisco, allez à un cab et dites tout simplement au cabis « Chez le juge Holmes, Myron Avenue. » Vous y serez mené directement. Et pendant que j'y pense, continua Lawrence Perfield, ce serait pas une idée si bête, qu'en pensez-vous, de m'acheter quelques petites choses? Oui, un homme marié doit avoir son outil, déclara sentencieusement Corey. Évidemment, il va nous falloir des nappes, des serviettes, des draps, des oreillers, que sais-je encore. Enfin, vous y demanderez le détail. Aussi un beau service de porcelaine fine à filet d'or. Je vous ouvre un crédit d'une vingtaine de mille dollars. Prenez bien tout ce qu'il faut. Vous fretterez le tout par steamer et nous pourrons avec cela à Dawson en juillet prochain par les steamboats de Rivière. À moins que vous ne voyez intérêt à ce que tout soit passé par le Bering. Ah, et puis, qu'est-ce que vous vous diriez d'un piano ? Hutchinson trouva que cela était indispensable. Ses appréhensions s'étaient évanouies et il se chauffait tout à l'honneur de sa mission. « Tonnerre, Lawrence ! » s'exclama-t-il, comme tous deux se levaient. Ces recommandations faites, je vous amènerai cette petite Mistress Perfield avec le concours d'un Limitless Luxe. Elle ne s'ouvrira de rien. Et dès que nous aurons touché l'Alaska, je serai le chef cuisinier. Je m'occuperai des chiens, des traîneaux, et tout ce que son frère aura à faire sera de lui tenir compagnie. De me signaler ce que j'aurais pu omettre. Oh, je ne crois pas toutefois que j'oublierai beaucoup de choses. C'est moi qui vous le dis. » Le lendemain, Lawrence Perfield serrait avec effusion les mains de son ami. Il le vit disparaître dans le matin gris, derrière ses chiens, vêtu de fourrure, tenant les deux courts brancards du traîneau à la façon d'une charrue, sautant d'un balancement du corps sur les grosses mottes de neige. Un dernier claquement de fouet sonna dans la distance et la forme du Chinson s'évanouit. Bernfield retourna seul à sa mine, qui lui parut plus que jamais noire et triste. Il soupira à la contemplation de l'implacable hiver abattu sur toute chose. Il avait devant lui beaucoup de travail, des hommes à surveiller, de minutieuses recherches à diriger vers la problématique veine payante, mais son cœur n'était pas à la tâche. Son cœur, envahi par la sombre nuit arctique, ne connut un peu d'aise que lorsque quatre charpentiers eurent posé sur un petit tertre élevé en retrait des travaux, les premiers trous de mélèze destinés aux murailles d'une maison confortable qui attendait la venue de Mabel. Son contremaître et lui avaient tracé les plans de l'habitation. Elle comportait trois pièces spacieuses, un partour, la cuisine-salle à manger et la chambre qui serait tendu de cotonnades et tapissé de fourrures rares. Chaque tronc devait être soigneusement équarri avec des encoches bien exactes afin d'éviter toute l'infiltration d'air. Et à chacun des hommes employés à la construction, Lawrence allouait un salaire de 15 dollars par jour. Rien ne pouvait être achevé avant 2 mois à cause de la neige, des intempéries et de la difficulté de trouver des arbres sains et droits qu'il fallait aller abattre et ébrancher haut dans la montagne. Chaque matin, à son réveil, Pernefil rayait d'un trait de crayon le jour qui venait de poindre, calculant mieux ainsi le temps qui le séparait du retour d'Hutchinson. Corey avait promis d'être là avant les dernières glaces du printemps. Oh, c'était loin encore. La maison fut terminée un dimanche matin. Son plancher neuf, écorce pelée des cloisons, l'emplissement d'une senteur douce et fine. Pernefil pensa que Mabel aimerait cette odeur de pain balsamique. Il assujettit un gros cadenas à la porte. Nul autre que lui n'avait le droit d'entrer là. Il y passait des heures et redescendait à la mine avec des joues rouges et un regard brillant de rêves encore vivaces. Et vers le milieu de décembre, Pernefil reçut une lettre de Corey Hutchinson. Celui-ci venait de visiter Mabel Holmes. Elle était bien digne d'être la femme de Lawrence, s'écriait-il. C'était une créature charmante, ses parents fort aimables, etc. Et cette lettre rendit Lawrence heureux pour plusieurs semaines. En janvier, deux autres lettres lui arrivèrent ensemble à cause, sans doute, de la pénurie des traîneaux postaux à Stanway à Diaz. Puis le quatrième, la semaine suivante. Elles étaient toutes aussi enthousiastes, aussi amicales. Corey revenait juste de Myron Avenue. Corey était sur le point de se rendre à Marion Avenue, où Corey était à Marion Avenue. Et il disait ses rencontres à San Francisco, omettant toutefois de parler du voyage à Detroit, patrie de sa famille. Lawrence Pernefil se prit à penser que son associé demeurait tout de même bien longtemps en compagnie de Mabel Holmes pour un homme qui devait revoir ses parents dans l'Est. Il se surprit même à éprouver, à de rares instants, quelque inquiétude. Mais, ne connaissait-il pas à fond Mabel et Corey? Les lettres de Mabel, de leur côté, ne tarissaient pas d'éloges sur Hutchinson, si aimable, si prévenant. Mais elle émettait quelques craintes pudiques à son tour, car sur les difficultés et tout l'imprévu de ce rare raid en traîneau sur la glace, ainsi qu'au sujet de leur rapide mariage à Dawson. Là-dessus, Pernefil répondait en toute bonne humeur, riant de ses alarmes, et l'assurant tout au moins d'une absolue sécurité, grâce à Corey, un second lui-même. Malgré tout, ce long et morne hiver du Klondike qui avait précédé sur lui deux autres hivers semblables, commençait à peser sur son âme. La surveillance du champ de placer, avec ses trous noirs et ses amas de neige, la poursuite du filon capricieux n'arrivait plus à chasser sa mélancolie. Et vers les derniers jours de février, Lawrence fit quelques voyages à Dawson, cherchant à s'étourdir autour des tables de route, de roulettes et de faro, parce qu'il pouvait perdre. Il gagnait, et la veine de Pernefil devint bientôt une chose proverbiale dans le clan des joueurs hirsutes et fatalistes. La chance resta avec lui jusqu'au milieu du mois. Combien de temps aurait-elle souri de façon aussi constante? On ne peut là-dessus que conjecturer, car après un très gros gain, certes un soir, il s'abstint à jamais de jouer. La chose eut pour théâtre l'Opéra House. Pendant une heure d'horloge, il sembla que Bertfield ne pouvait placer son sac d'or sur cette carte sans rallier immédiatement tout le tableau. Et bien, à la fin d'un coup, alors que le croupier propriétaire Nick Inwood le servait d'un air détaché, celui-ci, tout à coup, dans le silence, « À propos, Bertfield, j'ai lu dans les journaux, arrivé ce matin, que votre partenaire Hutchinson ne s'ennuie pas du tout de l'autre côté. »« Oh, je ne suis guère en peine de courir, » repartit Bertfield. « Il a bien raison de s'amuser s'il le peut. D'autant mieux qu'il l'a bien gagné. »« Oui, tous ses goûts sont dans la nature, » remarqua Inwood. « Seulement, entre s'amuser et prendre femme, » ajouta-t-il en ricanant, « il y a une différence. »« Quoi ? Corrie est marié ?» s'exclama Lawrence un peu étourdi de l'information. « Mais parfaitement, » dit Inwood. « Je viens de voir ça tout à l'heure, dans un journal de San Francisco. »« Ah bah !» prononça Bertfield avec une indifférence affectée. « Et quelle est l'heureuse miss ou mistress ?» Nice Inwood sortit de sa poche un journal bariolé, l'étala sur la table et se mit à entourer les pages une à une. « Attendez, attendez, je n'ai pas une mémoire spécialement remarquable en ce qui concerne les noms propres, mais il me semble que c'est quelque chose comme Mabel Melbourne. Ah, voici. Miss Mabel Holmes, fille du juge Holmes, de la rue Chose, etc., etc. Tenez, mon vieux, voyez-vous même. » Florence ne prit pas le journal. Il n'eut pas un frémissement dans les muscles du visage, pas un battement de paupières. Une petite douleur immédiate, cependant, lui vint de ce que ce nom, jusqu'alors chéri de lui seul, ait pu être prononcé à haute voix dans un tel bouge. Il remarqua carrément les joueurs, puis nous, dans l'espérance de découvrir sur leur face rude le signe d'une possible mystification. Mais rien de semblable ne se révéla. Alors il se tourna vers le tenancier du pharo et prononça en termes froids et mesurés, « Inwood, j'ai ici dans mon sac $500 d'or pur pour parier que ce que vous venez de me dire n'est pas imprimé sur le papier. » Inwood le regarda avec surprise. « Allez-vous-en, enfant, je veux pas de votre argent. »« C'est bien ce que je pensais, » dit doucement Bertfield, en jetant négligemment sur la table une poignée de jetons. Une rougeur monta aux joues du croupier, qui, comme en doutant de ses propres sens, déplia à nouveau le journal qui traînait sur une chaise, puis interrompant délibérément la partie, dit à Lawrence nerveusement, « Dites donc, homme, oh, je ne puis pas vous permettre ça, vous savez. »« Me permettre quoi ? Ben, vous permettre d'insinuer que j'ai menti, comprenez-vous ? Mais je n'insinue rien, » remarqua Bertfield. « Je prétends seulement que vous cherchez à faire monter de beaucoup l'esprit. » « Mais faites vos jeux, messieurs !» annonça calmement Inwood, et regardant Bertfield dans les yeux. « Vous êtes un peu jeune pour me faire tourner en bourrique, je vous en préviens, Bertfield. Et je suis assez vieux, cependant, » repartit celui-ci, « pour jouer les $500 que voici contre vos mauvais jeux, si vous voulez. » Ce disant, il posa sur la table un long sac de peau des blancs, lourd des pépites d'or. « Je regrette, mais j'empoche votre argent, mon garçon, » fit Inwood triomphalement en lançant devant Lawrence le San Francisco Chronicle. Le malheureux, interloqué, les tempes lui battant à grands coups, parcourut avidement toutes les lignes de la page, jeta un regard rapide sur les titres en gros caractères, et soudain les noms de Mabel Holmes et de Carrie Hutchinson accouplés lui sautèrent aux yeux au haut de la dernière colonne. « J'ai perdu !» déclara Benfield en souriant. « C'est Hutchinson, une fois lâché. Ma parole est capable de pire chose !» Il se mit alors dans un coin de la salle, à la clarté d'un lumignon, à relire mot pour mot la prose mondaine. L'un des rois du Bonanza, associé là-bas avec M. Lawrence Benfield, que la société californienne n'a pas encore oublié et intéressé avec ce gentleman dans d'autres propriétés minières du lointain Klondike, vient d'épouser Miss Mabel Holmes. Et plus loin, on dit dans leur entourage que M. et Mme Hutchinson, à titre de lune de miel, entreprendront le rude voyage du Grand Nord après une rapide visite aux parents du jeune marié à Detroit, Michigan. « Je vais revenir, Boyce, gardez ma place !» dit vivement Benfield, en reprenant son sac allégé des $500 gagnés par Inwood. Il sortit, il longea un instant le trottoir, brodé, borné de neige, et acheta chez un fruitier barbier libraire un journal de Seattle. Celui-ci contenait exactement la même information, bien qu'un peu plus condensée. Corrie et Mabel, indubitablement, étaient mari et femme. Lawrence retourna à l'Opera House, reprit son tabouret et, sans hésitation, demanda le banco. « Vous voulez voir si votre vieille main a tourné ?» questionna Inwood avec un gros rire. « Ma foi, je me disposais à aller m'acheter des mocassins à la racée, mais je vais tout de même rester pour voir ramasser une bonne culotte, hein. Ce serait votre tour. » Mais le tenancier avait mal prévu, car au bout de 2 heures de jeu, il annonça, en coupant entre ses dents la pointe d'un nouveau cigare, que M. Lawrence Petherfield avait pour le présent entièrement drainer la banque. Lawrence passa ses jetons, encaissa $40,000, serra la main d'Inwood et l'informa qu'il ne jouerait plus à sa table de faro à aucun autre jeu d'argent durant les jours qui lui restaient à vivre. Personne ne sut ni ne supposa jamais que Benfield venait d'être frappé d'un coup particulièrement rude. Il n'eut aucun changement apparent dans sa façon de vivre. Durant une semaine, il vaqua à son travail avec la même exactitude, prenant les mêmes peines, accomplissant les mêmes devoirs, jusqu'au matin du dimanche où le prospecteur qui s'était reposé un instant dans sa cabine, lui donna un journal de Portland, Oregon. Le compte-rendu du mariage de Croy et de Mabel s'y étalait en première page. Alors il demanda à l'une de ses voisins de prendre charge de la mine pendant quelque temps, attela les chiens et partir pour le Hole You've Gone. À l'embouchure de la White River, qui présentait à angle droit son boulevard de glace, il tourna, et au bout de 5 jours de marche, Lawrence arriva à un camp de chasse d'Indiens, Perley. Là, il eut grande fête le soir en son honneur. Il fut convié à s'asseoir à la droite du chef et partagea le punch avec la pauvre tribu. Le lendemain, de bonne heure, il poussait sa meute vers l'endroit d'où il était venu. Seulement, cette fois, il ne voyageait pas seul. Un jeune squaw, qui le ramenait avec lui,
prenait soin des chiens et lui aida à planter la tente au premier soir d'étape. Cette indienne avait eu le flanc déchiré par la patte d'un ours alors qu'elle était enfant. Elle en gardait une démarche assez heurtée et pénible. Elle se nommait l'Ashkar. Le chaman de tribu venait de les unir dans le mariage avec les rites raides presque peu barbares des Inuits du Nord. À présent, passive, inquiète, non du fait d'être désormais la chose de cet homme blanc, mais à la longue perspective de l'inconnu qui s'ouvrait devant elle, l'Ashkar s'en allait droit avec son époux vers les richesses du Bonanza. Après tout, cette pauvre fille, digne et active malgré son infirmité, n'était peut-être pas un si mauvais lot pour lui, avait pensé Palfield. Et aussitôt qu'ils eurent atteint Dewson, un pasteur les bénit officiellement en se servant du dialecte chinook pour s'adresser à la squaw humble et troublée. Dawson traversa vite, resta dans l'esprit de l'Ashkar comme une extraordinaire féerie. Puis Penfield l'installa dans la grande maison neuve entre d'agréables ours odeurs d'essence sur le haut du coteau devant le champ de la place. 9 jours passèrent. Les hommes du district, les notabilités de la capitale du Kloniki, restèrent bien un peu stupéfaits d'un tel acte de la part d'un gentleman accompli comme l'était Lawrence Perfield, mais après tout, chacun doit savoir diriger mieux que quiconque ses propres affaires, et nul n'osa commenter, au moins devant l'intéressé, cette union assez étrange. Au reste, Penfield, dès le premier jour, cessa toute relation avec les mineurs qui étaient entrés dans le pays accompagnés de leurs femmes. Il ne reçut plus de nouvelles de l'extérieur. On disait dans le Yukon Nugget que 6 traîneaux chargés de lettres et de paquets postaux s'étaient perdus dans une tourmente de neige à Big Salmon. Et Perifeld savait qu'à cette époque, Corey Hutchinson et sa femme voyageaient déjà dans l'intérieur de l'Alaska, en route pour la mine, en route pour ce voyage de ses noces dont il avait tant rêvé, au long des jours, au long des nuits, pour lui-même. Avril approchait de sa fin, lorsque, par un joli matin de printemps, égayé d'éclats de soleil sur la lande, l'Ashka demanda la permission de descendre le ruisseau avec les chiens jusqu'à la hutte de l'Indien Sylvan Peter. La femme de Sylvan Peter, venue de la tribu de la rivière Stewart, lui avait demandé que son nouveau-né était couramment malade. L'Ashka passait pour posséder une certaine science des troubles infantiles. Fernfield lui proposa obligeamment de l'accompagner. Il harnacha les chiens et ils prirent ensemble le sentier sur le lit de Bonanza. Le printemps réellement naissait. Le froid était beaucoup moins intense. On entendait déjà des gazouillis d'eau vive sous les masses de neige qui bloquaient les torrents. Les terribles tenailles de l'hiver se desserraient. En passant près d'une cassure béante où miroitait de l'eau verte, légèrement couverte de vapeur, Penfield entendit soudain le carillon minuscule du Timmatickle en éventail qui venait au trot. Presque aussitôt, 2 longues sleighs tirées chacune par 8 chiens suants et harassés apparurent à la queue leu-leu. l'allure, la voix et la façon de mener de l'homme qui marchait devant le premier traîneau tenait le jipole d'un poing ferme, apparurent très familières à Burnfield au premier regard. Cet homme était Corey Hutchinson. Derrière lui se tenaient deux femmes emmitouflées de fourrure. Burnfield arrêta sa meute et attendit. Il était content que Lashka fût avec lui, bien que le cœur lui battît à se rompre. En vérité, il n'aurait pas souhaité de plus favorables consonances et circonstances pour cette rencontre. Qu'est-ce que Corey allait pouvoir lui dire? Quelles explications? Quelle attitude garderait-il? Quant à lui, il était bien décidé à n'expliquer quoi que ce soit sur son compte. C'était à eux d'expliquer d'abord. À 10 pas, Corey arrêta ses bêtes d'un « ouh, ouh » sonore et un bon sourire illuminant sa face. Il marcha vers Perfield, la main tendue. « Hello, vieux Lawrence, comment allez-vous ?» Penfield serra cette main assez mollement et ne sut trouver un seul mot de réponse à l'affectueuse interpellation. À ce moment, les deux femmes descendirent du second traîneau. Il remarqua que la plus petite était Dora Holmes, sa sœur cadette de Mabel. Il retira poliment sa casquette fourrée dont les deux caches-oreilles flottaient, serra les mains de Dora, se tourna vers Mabel, et elle demeurait immobile, accoudée au traîneau, magnifiquement belle et toute rose de l'air du chemin. Il osa aller vers elle. Il eut cependant envie de demander « Comment vous portez-vous, Mistress Hudson ?» Mais il ne prononça pas cela. Ce qu'il put articuler fut seulement « Comment allez-vous ?» Toute la consternation, le trouble et le malaise inimaginables se peignirent soudain sur les visages des nouveaux arrivants. Mabel pâlit et Dora, désagréablement impressionnée par une telle réception, s'avança vers lui. « Qu'avez-vous, Lawrence ?» demanda-t-elle en lui posant la main sur l'épaule. Mais déjà Hutchinson avait empoigné son associé par la manche et l'avait attiré à l'écart. « Ah, ça, père de filet, vous devenez fou ! Que signifient ces manières étranges ?»« Ah, je me demande à mon tour, » répondit Burnfield. « Quel est votre droit de me questionner ainsi ?»« Et comment ?» s'exclama l'autre. « Et cette squaw sur votre slave, que fait-elle là ? De quoi est-elle là ? De qui est-elle la squaw ? Comment vais-je expliquer ces choses de ce genre ?»« Ben, vous n'avez rien à expliquer, monsieur, » dit Burnfield en haussant la voix. « Cette squaw est ma femme, Mistress Penfield. » Je vous prie, et le nom qu'elle se porte. » Corey Hutchinson ouvrit la bouche comme quelqu'un qui étouffe. Burnfield, revenu maître de lui, s'était rapproché des deux femmes. S'adressant à Dora, il demanda avec sa gentillesse coutumière, « Et comment avez-vous supporté le voyage? Dites-moi cela. » « Avez-vous pu au moins dormir chaudement ?» Et il ajouta avec déférence, se tournant vers Mabel, « Et comment Mistress Hutchinson a-t-elle trouvé nos régions sauvages ?»« Oh, mon Dieu, le grand Nigo !» s'écria Dora, en lui entourant le cou de ses deux bras. « Est-ce possible ? Mais vous avez lu l'annonce erronée, vous aussi ? C'est cela ?» « Ma belle, tu sais, je pensais bien que c'était cela. Ses façons étaient si bizarres. Allons, embrassez-moi. Je ne comprends pas bien, balbutia le malheureux en se dégageant. Mais ce fut corrigé le jour suivant, Lawrence, s'écria Dora. Mon Dieu, nous n'avons pas cru que vous eussiez pu lire cette stupide note ici, à l'autre bout du monde. Sans doute vous avez eu en main les journaux du vendredi, contenant l'erreur de nous. Et une minute, je vous en prie. Que voulez-vous dire ? Demanda Bertfield, se sentant envahi soudain d'un vertige douloureux. Et Dora, à présent, sanglotait. Mais n'avez-vous pas deviné déjà, Lawrence ? C'est moi qui suis Mistress Hutchinson, et voici ma belle, toujours votre fiancée. Nous vous avions ménagé une grande surprise. Allez la consoler, vite. Voyez, elle se trouve prise de faiblesse. Penfield toussa bruyamment et d'une voix blanche. Ah, oh, je vois maintenant. Le reporter embrouilla les deux noms. Mais j'ai lu aussi les journaux de Seattle et de Portland qui avaient copié son texte. Hélas, je n'ai jamais eu de chance qu'aux cartes. Pendant deux longues minutes, il garda le silence, les yeux baissés, sa respiration visiblement précipitée. Dora lançait vers la squaw, accroupie sur le traîneau des Bertfield, des regards pleins de stupeur. Mabel, silencieusement, pleurait. De sourds accès de chagrin soulevant sa poitrine. Alors, Lawrence Bertfield parla, simplement, en regardant Mabel Hermels dans le profond de ses beaux yeux. Oh, je suis désolé, puisque je ne puis l'exprimer. C'est une chose qui m'emplit de peine. Il poussa une sorte de grognement, comme pour éclaircir sa gorge, et dit encore. Mistress Penfield est sur la sleigh là-bas, assis. Toutes les fatigues de la route descendirent d'un seul coup dans les membres tremblants de Mabel. Dora la saisit à temps par la taille. Penfield regardait stupidement le bout de ses mocassins. Puis soudain, il fit volte-face, faisant claquer son long fouet, appela tout haut. « Oh, Lashka, en route ! Le baby de Sidienford peut attendre tout le jour !» Il empoigna les deux timons du traîneau, le décolla d'un mouvement brusque et, ayant fait quelques pas, il se retourna. « À propos, Cory, cria-t-il, vous pourrez occuper la vieille cabane. Je n'ai pas habité depuis 3 mois. J'en ai bâti une neuve, en bas, en haut, sur la colline. »